Alors, on vous parle depuis Bailly-Romainvilliers, qui est près de Disneyland Paris. Très heureux d'être parmi vous ce matin, on l'a dit, grâce à la technologie. Parler du grand thème de la persécution. Et là, vous imaginez, je me suis dit, oh là là, aïe aïe aïe. Sujet difficile, s'il en est un, très délicat. Et là, je me suis posé la question, mais Pierre, qui es-tu toi pour parler d'un sujet aussi sérieux, n'est-ce pas? Moi, après tout, j'ai jamais été en prison à cause de ma foi, j'ai jamais été torturé non plus. En presque 30 ans de ministère, j'ai peut-être reçu des menaces une fois, deux fois, trois fois quand j'étais en train d'annoncer l'évangile à Paris. Et je me souviens une fois, par exemple, il y a un vendeur de chaussures musulmans qui est sorti avec une chaussure à la main et il brandissait la chaussure vers moi et il voulait me taper dessus parce que je parlais à un jeune homme de sa religion, un jeune homme musulman comme lui. Alors une autre fois, un groupe de musulmans, encore une fois, nous a encerclés, j'étais avec deux ou trois chrétiens. On avait l'impression qu'ils voulaient en découdre. Mais au final, on n'a pas été molestés. Et ils sont repartis. On avait l'impression qu'ils voulaient nous taper, mais on n'a pas eu de problème. Et voyez donc, je ne suis pas un spécialiste de la question de la persécution, loin s'en faut. J'ai jamais vraiment été persécuté dans ma vie. Je ne connais pas ce que c'est dans ma chair. Mais il y a une chose que j'ai compris, et je pense qu'il y a une chose qu'on a tous compris quand on pense à la persécution, c'est que la persécution, c'est un sujet grave, un sujet solennel, un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que je voudrais faire ce matin. Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais tellement que la persécution n'existe pas sur la terre. Et je sais qu'un jour, ça va arriver. Au renouvellement de toutes choses, il n'y aura plus jamais de persécution des chrétiens. Mais force est d'admettre que aujourd'hui et de plus en plus, il y a de la persécution dans le monde. Alors, selon l'association Portes Ouvertes, je ne sais pas si vous connaissez, mais selon cette association, dans notre monde actuel, le nombre de chrétiens persécutés augmente à chaque année et ça augmente de plus en plus et depuis plusieurs années. Alors, il y a presque 350 millions de frères et de sœurs aux quatre coins de la planète qui souffrent, que ce soit d'une manière ou d'une autre, mais ils souffrent à cause de leur foi. Leur seul crime, c'est de croire en Jésus-Christ comme vous et moi. Et j'étais surpris de voir qu'il y a même des organismes non chrétiens qui sont émus d'entendre à quel point les chrétiens souffrent. Il y a des journalistes laïcs, par exemple, qui parlent de christianophobie, un peu comme on parle d'islamophobie ou d'antisémitisme. Donc, vous voyez, c'est grave, la persécution. Est-ce que c'est un sujet dérangeant? Oui. Est-ce qu'on n'aime pas tellement parler de ces sujets-là? C'est vrai. Est-ce que c'est un thème qu'on n'aborde pas assez souvent dans nos églises? Je dirais oui, malheureusement, et c'est dommage. Mais moi, je me réjouis tellement que votre église, l'église de Rosemont, ait pensé à aborder ce thème ce matin. Je suis très heureux. En réfléchissant à ce que j'allais pouvoir dire au sujet de la persécution, Dieu a rappelé à ma mémoire un passage du premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Dieu a ramené à ma mémoire le chapitre 10 de Matthieu. Et dans Matthieu 10, Jésus aborde le thème de la persécution. Je dirais qu'il l'aborde de front. Il approche directement et, comme on dit, sans langue de bois. Jésus parle ouvertement avec ses disciples de ce sujet-là. Et il en parle dans le contexte de la mission. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, cette approche de parler de la persécution dans le contexte de la mission. Ça me paraît très, très approprié pour cette emphase que vous mettez sur la mission aujourd'hui. Alors, Matthieu 10. Comme on va le voir ce matin, Matthieu va nous instruire sur l'attitude qu'il faut avoir en face de la persécution. Et notre texte nous donne en fait plusieurs clés pour naviguer dans un monde où bien malheureusement, je le dis, hein, c'est vrai, la persécution non seulement elle existe, mais elle est en train de s'intensifier. Donc on va prendre Matthieu 10, le texte apparaît sur l'écran, et on va lire des versets 16 à 22. Matthieu 10, 16 à 22. Je lis. Voici, Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et l'on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'as pas voulu cacher à tes disciples la réalité telle qu'elle est dans notre monde. Merci Seigneur parce que tu es avec ton peuple. Merci parce que c'est toi qui le secours. Merci parce que c'est ta présence qui fait toute la différence. Et Seigneur, s'il te plaît, instruis-nous aujourd'hui par ce texte. Parle-nous par ce texte. Rappelle-nous ta bienveillance, ton amour, ta puissance. Et Seigneur, permets que nous soyons solidaires de ceux qui souffrent actuellement, sachant que nous-mêmes, nous sommes dans un corps. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier principe qui ressort de notre passage, je dirais que c'est le suivant. Le monde dans lequel le chrétien évolue, il est hostile. Nous vivons dans un monde hostile. Vous allez me dire, mais Pierre, il est où le scoop? Dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas déjà. C'est vrai, on se rend bien compte que le monde est hostile à l'évangile. Ça peut nous paraître une évidence, mais parfois, j'ai bien peur qu'on arrive à oublier cela. Hein? Et pour nous aider à fixer cette vérité dans notre cœur, Jésus, dans notre texte, il va prendre un exemple frappant. Jésus prend l'analogie des brebis et des loups. Et moi, je trouve que c'est une image très, très parlante. Alors réfléchissez. Quand une vraie brebis dans le monde tel qu'il est se trouve au milieu des vrais loups, sur le plancher des vaches, dans notre monde, qu'est-ce qui se passe en général? Ben, la pauvre petite brebis, elle ne fait pas long feu. Elle est dévorée. Alors l'avertissement de Jésus ici est très facile à comprendre. Les enfants de Dieu ne sont pas dans leur élément ici-bas. Ils appartiennent à un autre monde. Ils portent allégeance à un autre roi, voyez-vous? Et ils ont donc des ennemis. Ça, c'est important de le comprendre. Un chrétien qui n'a pas compris cela va avoir beaucoup de mal à saisir ce qui lui arrive quand la persécution survient. Le chrétien va être surpris, il va être déstabilisé, il ne va pas comprendre. Alors l'apôtre Jean, à la fin de sa première lettre, le dit très clairement, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Mes amis, nous vivons dans un monde hostile. Jésus veut qu'on le comprenne. Les statistiques de portes ouvertes nous le rappellent à chaque année. Et on ne doit jamais, jamais l'oublier. Par exemple, en 2021, on l'a dit tout à l'heure, pour presque 350 millions de chrétiens à travers le monde, c'est impossible de ne pas penser à la persécution. Pourquoi? Parce que pour eux, la persécution, c'est une réalité de tous les jours. 350 millions de femmes, d'hommes et d'enfants. C'est plus que la population des États-Unis, le troisième pays le plus peuplé au monde. 350 millions. Voyez-vous, dès le moment où on croit en Jésus, le monde a une réaction comme celle de notre corps humain quand il combat un virus. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on attrape une grippe, par exemple? Ben, notre système immunitaire commence à réagir. Les anticorps se mettent en ordre de bataille pour combattre le corps étranger. Et je dirais que c'est pareil pour le chrétien dans le monde. Il est comme un corps étranger. Il n'appartient pas au monde. Parfois, oui, il est toléré. Souvent, il est combattu. Et dans certains cas, il est combattu avec une telle virulence qu'à ce moment-là, on parle de persécution. Une persécution. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans certaines parties du monde, actuellement, le simple fait de confesser le nom de Jésus-Christ, eh ben, ça peut entraîner une perte d'emploi. Ça, je dirais que c'est la version soft de la persécution. Ça peut entraîner des sévices corporels, des chrétiens vont être battus. Ça peut être entraîné un emprisonnement, un chrétien va être privé de ses droits, des droits fondamentaux. Ça peut entraîner de la torture et même parfois la mort. Premier principe donc, Jésus nous envoie dans un monde hostile. Alors après avoir dit explicitement que notre monde est hostile, après avoir dit que la mission ne se fait jamais sans opposition, Jésus, il explique ensuite quelle attitude est attendue du croyant qui évolue dans un monde hostile. Que doit-il faire en face du danger? Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Jésus ne prône pas l'isolement. Jésus n'encourage ni le retrait, ni le désengagement, voyez-vous? Alors lisez avec moi la deuxième partie du verset 16 de Matthieu 10. Je lis. « Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » Voyez ici, Jésus préconise la présence des siens. Évidemment, il veut qu'on soit là au milieu des gens. Mais c'est une présence pas n'importe comment. C'est une présence prudente et innocente. Qu'est-ce que ça veut dire? On va s'arrêter sur ces deux mots très rapidement. Alors Jésus ordonne en tout premier lieu à ses enfants d'avoir une présence prudente. Alors je dirais que parfois notre grand zèle pour l'évangile, ça peut nous faire oublier que dans la vie chrétienne, il y a une place pour la sagesse. Il y a une place pour la sagesse. Le chrétien n'est pas une tête brûlée. Le chrétien n'est pas un masochiste. Le chrétien ne court pas après le martyr comme ce qu'on voit parfois dans d'autres religions où on est prêt à se faire immoler parce qu'on pense plaire à Dieu. Non, le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien use de discernement. Et je dirais une chose, si le chrétien peut éviter la souffrance, s'il peut éviter les provocations, les insultes, les conflits, sans bien sûr compromettre sa foi, eh bien le chrétien va le faire bien, bien volontiers. Donc la prudence. Vous savez, dans des pays où la liberté de religion est parfois très, très limitée, c'est arrivé que certains chrétiens qui avaient été imprudents aient mis en péril des églises tout entières parce qu'ils ont manqué de discernement. Des chrétiens insouciants ont pu, par exemple, donner l'adresse d'un pasteur à des inconnus. Ou ils ont pu révéler l'endroit où des chrétiens se réunissaient en secret. Et l'impact a été terrible. Vous voyez, c'est un manque de sagesse. Ici, Jésus invite son peuple à la prudence. Oui, le chrétien veut être courageux. Oui, le chrétien est audacieux. C'est tout à fait louable, mais pas un insensé. Alors j'aimerais vous demander de prier pour les chrétiens persécutés, pour qu'ils reçoivent de Dieu toute la sagesse, tout le discernement qu'il faut pour savoir comment réagir en face de la menace. Prudence donc. Deuxième recommandation, à la fin du verset 16. Jésus donne un autre conseil qui est très précieux pour ceux qui veulent vivre dans des contextes difficiles. Jésus demande ensuite l'innocence. L'innocence. Alors ce mot, dans d'autres traductions, il peut être traduit par candeur ou pureté. Autrement dit, il s'agit de rester simple, il s'agit de rester pur. Il ne faut pas donner l'occasion aux persécuteurs de critiquer la foi chrétienne à cause de notre mauvais comportement. Voyez-vous ? Il pourrait arriver qu'une personne qui fait face à la persécution, pourrait arriver, et on peut le comprendre facilement, qu'il soit tenter d'arrondir les angles un peu. Pour sauver sa peau, ce chrétien persécuté pourrait faire des compromis, par exemple. Jouer un petit peu avec la vérité, utiliser des méthodes discutables, on pourrait dire. Voyez-vous ici ce que Jésus dit. Jésus demande aux siens d'être simples, d'être innocents et de lui faire confiance. Et vous allez me dire, la pierre, c'est complètement irréaliste ça. Rester intègre, rester vrai en face de la menace, ça pourrait vouloir dire, dans certains cas, pour certaines personnes, qu'ils ont signé leur arrêt de mort. Et pourtant, c'est ce que Jésus ici préconise. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, le conseil des Juifs, le Sanhédrin, avait menacé Pierre et Jean. Ils ont dit, vous allez aller en prison si vous continuez à annoncer le Christ. Et qu'est-ce que Pierre et Jean ont répondu? Ils avaient le désir, bien sûr, d'être de bons citoyens. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ont prié que Dieu leur donne la force d'annoncer la parole avec assurance. Et ils ont continué à prêcher le Christ. Jésus lui-même, quand il a fait face à l'opposition, il a parfois choisi de parler, comme devant les pharisiens dans Matthieu 23, et parfois il a choisi de se taire, comme devant Pilate. Voyez, il s'agit de trouver un bon équilibre entre la prudence et l'innocence, mais notre texte ici nous fait comprendre que les deux sont nécessaires. Alors prions pour les chrétiens persécutés, par exemple en Chine, au Nigeria, en Iran, pour que Dieu leur donne à la fois la prudence et l'innocence. Alors dans la suite du passage, Jésus continue à exhorter ses enfants. Il donne aux disciples un aperçu de ce qui va se passer concrètement quand ils vont faire face à un monde hostile. Quand ils vont avoir reconnu la réalité du combat spirituel, oui, le monde est hostile. Quand ils vont avoir appris aussi à être intelligents et simples, Jésus leur fait comprendre que tout ne deviendra pas facile pour autant, même s'ils écoutent Jésus. Et là, il y a un principe important pour nous. Même quand un chrétien aura fait le maximum pour être prudent, même quand il aurait fait tout ce qu'il peut pour être pur, Jésus ne lui promet pas nécessairement qu'il va éviter tous les problèmes. Voyez-vous cela ? Il y a de nombreux chrétiens aujourd'hui, dans des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran ou l'Afghanistan, des chrétiens qui ont été respectueux des autorités, des chrétiens qui ont été de très bons citoyens et qui ont tout de même été jetés en prison. Jésus explique ça à ses disciples. Ça peut arriver. Jésus ne cherche pas à cacher cette terrible réalité à ses enfants. Je ne suis pas pour vous, mais ici en France, pour les Français en général, les paroles de notre texte sont dures à accepter, n'est-ce pas? Je pense que ça doit être la même chose au Canada. Voyez-vous, en Occident, on a été habitué à exercer notre foi sans jamais trop être inquiété. On se dit, c'est normal qu'on nous laisse tranquille, qu'on ait la liberté. On s'habitue à vivre sans opposition ouverte. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas pour un grand nombre de chrétiens aujourd'hui. Vous connaissez sans doute la revue Christianity Today. Alors, selon cette revue, chaque jour, il y a 12 chrétiens qui sont injustement arrêtés ou emprisonnés. Ça fait 4380 chrétiens à chaque année. On peut remercier Dieu, parce qu'actuellement, au Canada, en France, on jouit d'une très grande liberté. Merci Seigneur. On n'envoie pas des chrétiens en prison, en tout cas pas maintenant, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Gloire à Jésus pour cela. Mais j'ai envie de dire, attention, ne soyons pas frivoles. Usons de la liberté qu'on a en ce moment, usons-la à bon escient. Comprenons qu'un jour peut-être cette liberté pourrait nous être enlevée, ça a été évoqué dans la présentation tout à l'heure. Et moi, quand je pense à tout ça, je me souviens de la situation au Québec il y a 70-75 ans. J'étais pas là moi-même, mais on me l'a raconté. Qui se souvient ici que, même dans notre belle province, qui peut se souvenir que certains pasteurs, ils ont pu payer un prix fort pour que l'évangile perce? Voyez? Moi, je suis originaire de Drummondville. Yvon Urtubise, le pasteur qui m'a baptisé, qui nous a mariés, Janine et moi, ben lui, il a été mis en prison avec sa femme dans les années 50, simplement parce qu'il a annoncé l'évangile. Et là, on parle du Québec. J'ai lu quelque part aussi qu'un pasteur, une fois, a été attaché au pare-choc d'une voiture et traîné dans la rue parce qu'il voulait partager sa foi. Ça, c'était au Québec. On a dessiné un jour un cercle avec de l'essence autour d'un serviteur de Dieu. Il prêchait l'évangile et on a allumé là où il y avait de l'essence pour empêcher la foule d'écouter ce pasteur qui prêchait. Ça, c'est au Québec. Voyez-vous, on peut obéir en tout point aux recommandations de Jésus et pourtant avoir des problèmes avec les autorités. Et Jésus annonce à ses disciples qu'ils risquent d'aller en prison parce qu'ils ont choisi d'obéir à l'Évangile. Mes amis, il faut s'habituer à l'idée que la vie chrétienne consacrée, c'est une vie à haut risque. Une vie à haut risque. Je relis le verset 17. « Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fera fouetter dans leur synagogue. » Alors, arrivé au verset 18, Jésus nous révèle son intention en laissant la persécution sévir. Jésus a une idée bien précise derrière la tête. Je lis le verset 18. « On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-juifs. » Alors on peut se demander, il y a raison, si le monde est comme une meute de loups, si l'Église est comme un troupeau de brebis, pourquoi est-ce que Jésus nous envoie-t-il dans ce genre d'environnement? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi est-ce qu'il nous laisse dans ce monde hostile, lui qui nous attend aimé? Pourquoi est-ce qu'il ne nous reprend pas tout de suite? Je dirais que la façon dont Dieu agit dans le monde nous déroute souvent. Ésaïe, le prophète, nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et on voit cela tout particulièrement dans la parabole du blé et de l'ivraie. C'est dans Matthieu 13. Quand Jésus explique la signification de la parabole à ses disciples, il leur fait comprendre que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, dans plusieurs autres textes, c'est la parole de Dieu, mais ici, c'est surprenant. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Voyez-vous, Jésus sème ses enfants partout. Nous sommes semés dans le monde, même dans les coins du monde les plus sombres. Et pourquoi laisser ces chrétiens dans ces endroits si difficiles? Parce que nous sommes appelés à être cette présence prudente et innocente qui témoigne de l'amour de Dieu partout. Est-ce qu'on a compris que notre présence dans le monde sert à cela? Peu importe où on est. Il faut que la lumière de Jésus brille partout. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est digne, parce que Jésus mérite au plus haut point d'être connu. Alors parfois, il y a un chrétien qui va avoir été semé dans sa famille, et cette famille, elle est très réfractaire à l'Évangile. Et Dieu l'a semé là. Parfois, un chrétien va être semé dans son quartier qui est très opposé à Jésus. Parfois, un chrétien va être semé dans son milieu de travail très athée et dans sa ville parfois très laïque. Pourquoi? Pour briller. Dieu a tellement envie que sa parole soit connue même par des gouverneurs et des rois, même dans les coins les plus sombres de la planète. Il veut tellement que son évangile soit entendu partout que certains de ses enfants seront semés dans les coins les plus sombres, les plus difficiles. Dieu n'est pas satisfait aujourd'hui que son cher fils soit inconnu dans des pays comme la Libye ou le Yémen. Alors remercions Dieu, oui, pour la présence de nos frères et sœurs aujourd'hui dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Érythrée, l'Inde, le Pakistan et beaucoup d'autres. Ces gens, ces frères et sœurs sont le sel qui empêche Dieu de détruire ces pays aujourd'hui. Mais prions pour eux. Prions pour que leur vie juste, leur vie droite, permette à des millions de personnes qui sont créées à l'image de Dieu, leur permette d'entendre la bonne nouvelle comme nous, on l'entend aujourd'hui. Alors versets 19 et 20 continuent et ils contiennent une promesse extraordinaire pour les chrétiens persécutés et pour nous aussi aujourd'hui. 19 et 20. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. On a une promesse du secours de Dieu. Alors depuis le début du christianisme, c'est arrivé souvent que Dieu change radicalement l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église persécutée. Dieu est le maître de l'histoire. Et quand je pense à cela, je pense au mur de Berlin. Quand le mur de Berlin est tombé, après plus de 40 ans de communisme, Dieu a suscité un mouvement de prière un peu partout dans le monde, et le mur est tombé, et tout le monde était étonné à ce moment-là. Qui aurait pu s'imaginer que les pays les plus opposés à la foi chrétienne changent aussi radicalement en moins d'une génération? Qui aurait pu penser ça? Et j'ai envie de dire, qui pourrait aujourd'hui s'imaginer que l'islam radical puisse être renversé? Que les chrétiens puissent vivre dans ces pays de persécution une foi avec la liberté qu'on connaît? Dieu, oui, peut nous étonner, comme il l'a fait en 1989 en renversant le mur de Berlin. Et Dieu nous invite d'ailleurs à prier dans ce sens-là, sans nous relâcher avec foi. Mais remarquez bien ce que Jésus dit à ses disciples dans les versets 19 et 20. Très intéressant. Il me semble, moi, que c'est pas nécessairement un changement de circonstance que Jésus a en vue dans les versets 19 et 20. Dieu va laisser ses témoins aller en prison, dans notre texte ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, en prison, il va les équiper pour qu'ils puissent faire briller la lumière de l'Évangile. Il va les équiper. On n'a qu'à penser à Paul et Silas, quand ils étaient à Philippe. Ils louaient Dieu dans leur cellule, et Dieu est intervenu. Et un geôlier et sa famille ont connu l'Évangile, le gardien de prison qui s'est converti. Demandons au Seigneur de permettre que de nombreux prisonniers injustement détenus dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, demandons qu'ils soient libérés, mais supplions Dieu également de donner aux autres chrétiens qui demeurent en prison, demandons que Dieu leur donne du courage et qu'il leur donne un témoignage tel que même les gardiens de prison et les autres détenus vont être bouleversés par leur vie. Voyez-vous? Quand on pense aux chrétiens persécutés et à la défense qu'ils doivent présenter devant des autorités qui sont injustes, oui, prions Dieu, que Dieu leur donne des paroles qui vont convaincre, des paroles vivifiantes. Ça, c'est le verset 19 et 20. Et dans les deux derniers versets de notre passage, Jésus parle finalement d'un type de persécution qui est peut-être le plus douloureux, le plus difficile à comprendre. C'est la persécution qui vient de sa propre famille. On entend des témoignages parfois de parents qui renient leurs enfants simplement parce qu'ils se sont convertis. Il y a parfois des témoignages de parents qui tuent leurs fils, leurs filles, à cause de leur foi. Des maris qui tuent leur femme parce qu'elle a cru au Seigneur. Je lis le verset 21 et 22. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, il y a quelque chose de terrible. Des personnes qui devraient nous comprendre le plus, qui devraient nous chérir, qui devraient nous protéger, deviennent nos ennemis. L'inimitié atteint son paroxysme. En priant pour ceux qui ont été déshérités, ceux qui ont été abandonnés, rejetés par leur famille, par leurs proches, leurs bien-aimés, à cause de leur foi. Prions pour ceux qui sont menacés de mort actuellement par les membres de leur propre maison parce qu'ils sont devenus chrétiens. Prions pour qu'ils s'accrochent. Prions pour qu'ils trouvent dans l'Église des frères et sœurs pour les aider, qu'ils trouvent la solidarité parmi les autres chrétiens. Prions qu'ils persévèrent. Alors je résume le message de Jésus à l'égard de ses enfants qui sont en mission et je vous laisse 6 propositions. Premièrement, reconnaissez que le monde dans lequel vous évoluez est hostile à Dieu. Reconnaître cela est très important. On vit dans un monde hostile. Deuxièmement, malgré l'hostilité, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, au travail, dans votre famille, ne renoncez pas à être sel et lumière. Troisièmement, soyez prudent et innocent. Prudent n'est pas des têtes brûlées, n'est pas des masochistes. On fait attention. Et innocent, on veut garder cette intégrité, cette pureté. Attendez-vous à être incompris et combattu. Jésus a dit, s'ils vous haïssent, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Croyez que Dieu va vous équiper d'une manière ou d'une autre. Soit il va vous libérer de la persécution, soit il va vous donner ce qu'il faut pour faire face. Et aimez Dieu et l'Évangile plus que tout. Plus que tout. Que Dieu nous donne cet amour qui est si fort pour lui. Qu'on va pouvoir résister et persévérer. Et tout cela, bien sûr, est une grâce. Alors, je termine en disant que Dieu nous donne et à eux également, on peut changer, le courage, la prudence, l'innocence et la persévérance. C'est le résumé de ce que notre texte, il me semble, nous dit ce matin. Alors, on va prier. Je vais te prier maintenant. Et si on a encore un petit peu de temps, je vais donner quelques statistiques par rapport à l'Église persécutée pour alimenter encore notre réflexion et nos prières. Je prie. Seigneur, merci pour Matthieu 10, merci pour la puissance de ces paroles. Elles sont dures. Et Seigneur, c'est vrai que nous ne comprenons pas nécessairement en profondeur ce que tu es en train de dire. Mais nous savons que ta parole est vraie. Et nous savons, Seigneur, que tu nous as donné ces paroles en vue de ce qui pourrait nous arriver. Parce que, Seigneur, tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance. Nous te demandons, Seigneur, qu'en tout, nous puissions être attachés à toi. Que ton amour pour nous soit tellement fort que nous allons être préparés à vivre des temps qui pourraient être difficiles pour nous. Seigneur, accompagne-nous. Accompagne les frères et sœurs actuellement qui sont persécutés. Ceux qui sont en prison. Libère-les, Seigneur, et ceux qui vont rester en prison, donne-leur le courage et la force d'être des témoins. Mais que partout, Seigneur, le nom de Jésus soit élevé. Merci, Seigneur, parce que tu as libéré des pays derrière le rideau de fer au moment voulu. Seigneur, tu es capable de libérer nos frères et sœurs qui souffrent. Mais s'ils doivent connaître le sacrifice ultime, accompagne-les et que leur cœur soit rempli de joie d'être trouvé digne de souffrir pour le nom de Jésus. Et j'ai prié en ton nom. Amen. Alors, si j'ai encore quelques temps, ça ne sera pas très long, mais on peut changer les slides maintenant. J'aimerais dire, on l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, 350 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, et ça représente 1 chrétien sur 8. Il y a 1 chrétien sur 8 aujourd'hui dans le monde qui vit la persécution d'une manière ou d'une autre. C'est énorme. Les 5 pires pays pour les chrétiens actuellement, donc je vous donne ces statistiques pour que vous priez pour les chrétiens qui vivent dans ces pays, c'est la Corée du Nord depuis plusieurs années d'ailleurs, l'Afghanistan, la Somalie, la Libye et le Pakistan. Prions pour ces pays. Alors, il faut savoir que actuellement, la moitié, plus de la moitié des chrétiens qui sont tués dans le monde sont des chrétiens qui sont tués au Nigeria, avec Boko Haram. Il y a 3462 chrétiens qui sont tués au Nigeria depuis 2021 et ça continue. Donc prions vraiment pour ces personnes qui vivent dans ce pays d'Afrique subsaharienne. Alors des églises attaquées ou brûlées, à chaque jour 12 bâtiments d'églises sont attaqués ou brûlés, et tout particulièrement en Inde, en Égypte, au Sri Lanka et au Nigeria. Pensons à ces pays où non seulement on met les chrétiens en prison, où on tue les chrétiens, mais on brûle aussi les bâtiments d'église. Et pensons aussi à ces endroits où les chrétiens sont privés de droits fondamentaux. 4277 chrétiens ont été arrêtés et détenus injustement, dont la moitié en Érythrée, à Corne de l'Afrique, et en Chine également. Pensons à ces chrétiens. Alors on parle de l'exode des chrétiens du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 18 ans, la population chrétienne d'Irak est passée de 1,5 million à 150 000. C'est catastrophique. Les chrétiens d'Irak sont persécutés et ne voient pas d'autre possibilité que de quitter le pays. Donc la présence chrétienne devient presque nulle dans ces pays. Prions pour ceux qui restent, c'est à peine 150 000, mais prions pour que Dieu leur donne la force de persévérer. Et finalement, quoi faire pour les chrétiens persécutés ? La prière. J'espère que dans notre église, on va pouvoir trouver un moyen de prier régulièrement pour les chrétiens persécutés, peut-être lire des articles de la revue Portes Ouvertes, mais trouver des moments très précis où on prie pour l'église persécutée. Ils ont besoin de nos prières. Ensuite, s'informer. Une bonne manière d'aider ces chrétiens, c'est de s'informer de la situation et de faire connaître à nos autorités dans la ville où on habite ce qui se passe, pour mobiliser aussi, pour sensibiliser les gens qui ne connaissent pas cette situation à la réalité des chrétiens persécutés dans le monde. Et on peut aussi donner financièrement. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, et que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Amen.